Il s'agit du psaume 3. Nous poursuivons dans notre série. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Excusez-moi, j'ai oublié de lire l'introduction du psaume qui va être importante, vous le verrez. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le contexte du psaume de ce soir est un cauchemar quand on y pense. Un cauchemar. Il renvoie à ce moment où le fils de David, Absalom, se révolte contre son père. Un coup d'État qui prend de l'ampleur et où Absalom veut tout simplement se débarrasser de son père. La situation est si critique que David doit quitter Jérusalem, s'enfuir pour sa vie avec quelques-uns des siens. Vous imaginez la situation? Vous avez donné naissance à un enfant, un fils, vous l'aimez, et la suite montrera combien il est attaché à son fils. Mais ce fils-là veut votre mort. Il veut vous destituer de votre royauté, et vous êtes réduit à la fuite. Et malgré tout cela, malgré toute la tension palpable, les milliers, toute une armée qui sera à sa poursuite, David pourra écrire « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Est-ce qu'il écrit ça parce qu'il est insensible? Non. Le fait même qu'on ait ce psaume montre qu'il n'est pas insensible à sa situation. Est-ce qu'il est optimiste? C'est un éternel optimiste. Tout ira bien, tout finira bien, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ça non plus. Il y a bien des incertitudes au moment où il rédige sur l'avenir. Mais ce qui change la donne, ce qui fait la différence, c'est précisément que Dieu est son soutien. Mais pour mieux comprendre les tenants, les aboutissants de ce psaume, je vous invite à découvrir cette prière en trois points. Il y aura d'abord un point sur la situation, un point d'ancrage dans les versets 4 et 5, et puis un point de chute, 6 à 9. Ce psaume, il a une double portée. D'un côté, il parle des circonstances particulières de David, le roi David, le Messie, en quelque sorte, celui qui a été oint pour être roi de son peuple. Et de ce point de vue-là, il suit logiquement le psaume 2 qu'on a médité dimanche dernier, où on a vu une révolte des humains contre le Messie que Dieu a choisi, contre le roi que Dieu a choisi. On a vu que dimanche dernier, ce roi choisi par Dieu renvoie à Jésus, à la personne de Jésus. Il est le Messie de Dieu. Et ce soir, c'est un peu comme si on avait une illustration de ce genre de révolte. C'est un air de déjà-vu. Et cette portée-là, elle doit être prise en compte, alors qu'on essaie de comprendre le sens de ce psaume. Mais d'un autre côté, il s'agit d'un psaume, comme les autres psaumes, qui nous touchent directement. Le psaume 1 nous parlait de vitalité, de stabilité qu'un croyant peut vivre dans n'importe quelle situation. Il nous invitait à méditer cette parole de sorte qu'on puisse vivre toutes sortes de situations. Et ici, alors que David lui-même fait face à la crainte, l'angoisse de tous ses ennemis qui lui en veulent, nous pouvons nous identifier à sa situation, aux craintes qu'il peut ressentir, à ce qu'il va faire dans sa situation. On aura donc ces deux portées-là, une application indirecte, mais une application directe aussi. On va commencer d'abord avec un point sur la situation, dans les versets 1 à 3. Ben, pour faire le point sur la situation, on est aidé justement par cette introduction que j'ai failli manquer, et qui nous dit que ça renvoie au moment où David a dû fuir son fils Absalom. Un coup d'État qui est présenté dans le livre de 2 Samuel, dans les chapitres 15 à 18. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a mené à cette révolte? Eh bien, d'un côté, on a une explication qui est donnée un peu plus tôt dans le livre de 2 Samuel. Une prophétie qui est faite à David après son adultère avec Bathsheba, le meurtre de son mari. Le prophète Nathan lui annonce que l'épée ne s'éloignera plus de sa famille, qu'un malheur sortira contre lui de sa propre famille, que ce qu'il a fait en cachette aura des conséquences au grand jour. Et on voit dans tout ce qui se passe au sujet d'Absalom l'accomplissement de ces prophéties-là. Autrement dit, on y voit une conséquence des fautes de David, ce qu'il a fait des années plus tôt. Mais dans le même temps, on voit dans la révolte d'un Absalom une illustration du psaume 2, d'une révolte contre le Messie que Dieu avait pourtant choisi. Absalom est bien coupable dans ses motivations, dans ses actes vis-à-vis de Dieu. Il est responsable. Et qui dira que la Bible est simpliste dans sa manière d'identifier une situation, de l'expliquer? D'un côté, ce qui se passe est la conséquence des fautes de David. Et d'un autre, c'est la faute d'Absalom qui est présentée, lui-même responsable de cette révolte. Et quelle est la réaction de David face à ce qui se passe? Même pour ce qui est de sa faute, on pourrait voir le psaume 51 qui décrit sa prise de conscience, sa confession devant Dieu. Il a vu la gravité de ce qu'il a fait. Il voit aussi la beauté du pardon. Mais ici, il exprime légitimement sa détresse face à ceux qui en veulent à sa vie. Il se tourne vers Dieu pour dire sa crainte, ses peurs. Et la première chose qui est dure à vivre pour lui, eh bien, c'est tout simplement l'hostilité grandissante. Vous l'entendez, verset 2, « Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet. La révolte gronde, les ennemis se multiplient. » Être en tension avec une personne, c'est déjà difficile en soi, mais quand les opposants se multiplient, ça devient encore plus difficile à gérer. Ça remonte loin, je pense que j'avais à peu près 12 ans, mais alors que je jouais dans un club de foot, je me souviens d'un moment où un joueur en particulier est devenu en quelque sorte le bouc émissaire dans le groupe. Et ce qui est grave, ce qui était cruel, c'est que ce n'était même pas pour quelque chose qu'il avait fait, mais simplement pour l'appartenance politique de ses parents. Ça a commencé avec un autre joueur qui a commencé à l'insulter ou à dire des paroles pour le blesser. Et par la suite, d'autres l'ont rejoint. Et c'est allé loin. Les insultes, les coups. Son vélo a été jeté dans la rivière. Et là, on est en train de parler d'enfants. Même les enfants sont capables de cruauté. Et dans la peau de cette personne qui est la cible de cette hostilité, on peut imaginer l'angoisse de se retrouver, non pas avec une seule personne, mais tout un groupe qui lui en veut. Et c'est ce qui est difficile à vivre pour David. Mais ce n'est pas seulement le nombre grandissant d'ennemis, c'est aussi les paroles qu'on prononce à son sujet. Verset 3, « Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » Qu'est-ce qui touche David en plein cœur alors qu'il entend ces paroles? Ben c'est Dieu qui a permis à David d'être qui il est. C'est Dieu qui est à l'origine de son existence. C'est Dieu qui est aussi à l'origine de son règne. C'est Dieu qui l'a accompagné dans toutes ses luttes, dans tous ses combats, qui l'a préservé jusqu'ici. Et ce qu'on lui assène par ces paroles, c'est « David, maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Dieu ne sera plus à tes côtés. Il ne sera plus avec toi. » Il ne va plus rien faire pour toi. Ce coup d'État, c'est comme une lame de fond qui va t'emporter. C'est terminé avec Dieu. On pourrait mentionner d'autres paroles qui ont été prononcées dans cette même période-là. Au moment où il quitte Jérusalem, dans 2 Samuel 16, un certain Shimei, un membre de la famille de Saül, va prononcer ces paroles. « Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaurien, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Comme si les reproches s'accumulaient. Il y en a d'autres qui viennent avec d'autres reproches. Et quand on se souvient du fait que David a été injustement traité par Saül, quand on se souvient qu'à plusieurs reprises, il aurait pu s'en prendre à Saül, mais il l'a épargné, les reproches qu'on lui fait là sont particulièrement durs à entendre. Maintenant, il y en a peut-être qui se disent « mais c'est que des paroles, on n'a qu'à pas les écouter, ça ne nous affecte pas. Des paroles. » Dans notre propre expérience déjà, on a dû réaliser à un moment ou à un autre combien les paroles prononcées contre nous, à un autre sujet, derrière notre dos peut-être, sont dures à vivre. Mais même si on ne le reconnaissait pas, la société qui nous entoure le reconnaît. Prenez par exemple le harcèlement moral, dont on parle de plus en plus, sur le site du gouvernement. Il est défini par des remarques désobligeantes, intimidations, insultes répétées. Et on y lit aussi que, en plus de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne, le risque est d'altérer sa santé physique ou mentale. On ne peut pas nier le fait que des paroles en elles-mêmes peuvent être destructrices. Et là encore, comment est-ce que David réagit? Comment est-ce qu'il fait vis-à-vis de ces paroles qui sont prononcées contre lui? Eh bien, c'est vers Dieu qu'il se tourne. C'est vers Dieu qu'il se tourne. On lui dit qu'il n'y aura pas de salut auprès de Dieu. Eh bien, c'est précisément vers Dieu qu'il se tourne. On le blesse par des paroles. Eh bien, c'est par des paroles qu'il se tourne vers Dieu pour dire ce qu'il ressent, ses craintes, son angoisse. Ce psaume, ce n'est pas simplement un point sur la situation, comme si chacun d'entre nous, quand on vivait un moment de crainte et d'angoisse, on avait simplement besoin de mettre en mots les choses seul dans sa chambre, ou alors avec quelqu'un en face de nous qui est prêt à nous écouter, et ça nous fait du bien d'en parler, et tout est là. Ces paroles qu'il prononce ici, ce point sur la situation, c'est plus que cela, c'est une prière qu'il adresse à Dieu. À Dieu lui-même. Il s'adresse à Dieu qui connaît tout de sa situation et qui est en mesure de le secourir. C'est une prière au-delà d'un point sur la situation. Et c'est une invitation pour nous, dans nos moments d'angoisse, dans nos moments de crainte, à nous tourner vers Dieu et à lui décrire ses craintes, à lui décrire nos angoisses, en sachant qu'il nous entend, qu'il nous connaît. Mais il nous faut un point d'ancrage, et il a fallu à David un point d'ancrage dans les versets 4 à 5. À la suite de l'ouragan Irma, on a pu constater les images de dévastation, toitures arrachées, bateaux complètement déplacés, des arbres déracinés, des voitures renversées, des vents à 360 km/h, une puissance destructrice à l'œuvre. Et naturellement, avant un tel ouragan, des mesures devaient être prises pour être en sécurité, et en particulier le fait de ne pas sortir de son domicile. N'importe qui serait balayé par une force pareille. Quel est le point d'ancrage pour David dans sa tempête personnelle? Qu'est-ce qui va lui permettre d'expérimenter une sérénité alors que tout semble être emporté? C'est la première fois qu'on rencontre le terme « Selah », traduit ici par « pause ». On ne sait pas exactement à quoi il renvoyait. Est-ce que c'est une indication pour les musiciens qui devaient justement faire une pause, les instruments, les chanteurs? Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que juste après cet élément-là, « pause »,« Selah », on a un tournant majeur dans ce psaume. « Mais toi, Éternel, tu es ». C'est là son point d'ancrage. Dans la tempête, c'est Dieu lui-même son ancrage. Et il l'exprime de plusieurs façons. D'abord en disant « Tu es mon bouclier ». Une expression qu'on retrouve à différents endroits dans la Bible, et même Abraham l'entend. Mais ici, pour David, ça résonne particulièrement. Lui qui a connu la violence des combats, lui qui sait ce que c'est que d'être face à des ennemis dans un combat, et il a été à bien des reprises, il peut dire « Tu es mon bouclier ». Mais lui-même, dans un psaume, un autre psaume, psaume 64, il dit ceci. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent leurs paroles amères comme des flèches. Les armes qu'il voyait à ce moment-là sont comme une épée. Ses paroles prononcées contre lui sont comme des flèches. Et ici, il peut dire que Dieu est son bouclier. Sa protection, il la trouve en Dieu. Il se sait protégé par Dieu. Tu es mon bouclier. Mais il dit ensuite, tu es ma gloire. Imaginez ce qui se passe dans la tête de David alors qu'il doit quitter Jérusalem. Il est passé de la position d'un monarque puissant à un simple fuyard dans le désert. En quelques heures, c'est ça qui se passe. La gloire qu'il avait en tant que roi, il doit y renoncer pour se retrouver à devoir se cacher avec quelques-uns des siens. Eh bien, tu es ma gloire, c'est une manière de dire qu'il ne va pas regarder à l'approbation ou à la puissance ou à la richesse pour se savoir en sécurité en disant « ça, c'est la gloire que j'ai ». Il a perdu tout cela. Tu es ma gloire. Tout cela lui a été enlevé en quelques heures. Non, la gloire, autrement dit, ce qui va avoir le plus de poids dans sa vie, c'est Dieu. Tu es ma gloire. Vendredi sur France Info, on pouvait entendre un entretien avec l'auteur d'un documentaire sur Jean-Jacques Goldman. Et il révélait que plusieurs choses assez touchantes par rapport à Jean-Jacques Goldman, qui est pour beaucoup encore la personnalité préférée. Et par exemple, dans les choses qu'il partageait, c'est qu'il a communiqué à Jean-Jacques Goldman qu'il allait faire un documentaire. Voici la réponse de Jean-Jacques Goldman. « Aucun film, aucun disque hommage, aucun documentaire ne pourra rivaliser avec ce que je constate. Mes petites chansons font partie de la vie des gens. Et c'est tellement plus précieux que d'être célébré à travers des livres, des disques, des documentaires. » C'est touchant, n'est-ce pas, de voir qu'en fait, il n'est pas à la recherche de films sur sa vie, de documentaires, de disques commémoratifs ou autres. Ailleurs, il est dit qu'il se voit comme quelqu'un qui est un artisan, un simple artisan, qui ne veut pas être en lumière. Mais on peut se poser la question pour Goldman comme pour nous. Si on nous retirait même la petite chose qui nous fait du bien, en l'occurrence le fait que des gens connaissent ces chansons, reprennent ces chansons, si on vous enlevait la petite chose qui vous satisfait, vous n'êtes peut-être pas en train de rechercher la célébrité, les médailles, la gloire devant les autres, mais cette petite chose dans votre vie où vous vous dites « j'ai ça, c'est ça qui est important pour moi ». Ça peut être telle relation, ça peut être l'approbation des autres, ça peut être l'appartenance à un groupe, ça peut être quelque chose sur le plan professionnel. Mais si on vous retirait ça aussi, ici, David reconnaît que la seule chose qui tient dans les moments d'épreuve, c'est Dieu, c'est lui, sa gloire. C'est là le sujet de son émerveillement, sa satisfaction, sa sécurité, sa valeur, c'est en lui seul. Et il dit ensuite, tu relèves ma tête, comme quelqu'un d'abattu, profondément abattu, pour différentes raisons. Vous pouvez imaginer un père qui réfléchit à ce qui peut animer son fils, à quelqu'un qui doit fuir, qui est dans l'incertitude par rapport à l'avenir, quelqu'un qui se sent peut-être coupable de ses fautes passées, de sa responsabilité en tant que père. Il aurait toutes les raisons de baisser la tête. Mais David a confiance que le Seigneur lui-même la relève, comme un parent qui relève la tête de son enfant. C'est certain, David a des choses à se reprocher. Ce n'est pas un homme pur et innocent. Il a des choses dont il a été coupable dans le passé. Et ce qu'il vit est en partie les conséquences de ces fautes-là. Mais si on retourne aux paroles du prophète Nathan, on entend là aussi qu'il y a, en même temps que ses conséquences, l'assurance qu'il est pardonné. Et il l'exprime dans le psaume 51. Et même si tout le monde le presse à baisse la tête, vaut rien, baisse la tête. Il sait que le Seigneur la relève. Et il sait que sa prière aussi est entendue. À pleine voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Dans un sens, il aurait des raisons de douter alors qu'il quitte Jérusalem, il s'éloigne du temple, là où il pouvait encore aller prier, rencontrer Dieu. Est-ce que Dieu va l'écouter? Est-ce que Dieu va l'entendre? Et il a pourtant cette assurance que Dieu va l'entendre, sa prière. Et c'est ce qu'on peut expérimenter aussi. Tu es mon bouclier face aux paroles qui sont prononcées contre nous. On n'est pas innocent, on n'est pas pur. Mais face à des reproches qui nous sont faits, on peut aussi expérimenter cette protection. Tu es ma gloire quand les choses nous échappent. C'est lui notre gloire. Tu relèves ma tête. Malgré toutes les raisons de baisser la tête, d'être abattu, on peut avoir ce point d'ancrage en Dieu. Quelqu'un qui nous relève la tête, qui entend nos cris, qui entend nos prières. On a parlé d'un point sur la situation, d'un point d'ancrage. Et maintenant, c'est le point de chute dans les versets 6 à 9. Ce n'est pas pour vous, mais quand il y a quelque chose qui préoccupe mon esprit, quand il y a une liste de choses à faire et le sentiment que je n'arrive pas à gérer, ben, le sommeil, c'est une des premières choses qui est affectée. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais que ce soit difficulté à s'endormir ou interruption dans le sommeil, peut-être même cauchemar, absence de sommeil. Et je me souviens en particulier d'une période où je commençais à enseigner, à faire de l'enseignement. Il y avait les choses à faire, il y avait le désir de bien prendre ses marques et en fait des situations un peu compliquées à gérer dans la classe. Et pendant une période qui m'a paru assez longue, des semaines, j'avais régulièrement des nuits agitées, cauchemars récurrents, insomnie. Mais dans des conditions bien plus pénibles, David aurait pu avoir des nuits difficiles et c'est pourtant lui qui affirme « Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Son sommeil est miraculeusement préservé. Dans un sens, ça paraît complètement basique. Le sommeil, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Et bien justement, quand tout le reste lui est enlevé, quand il est dans l'insécurité, le sommeil, c'est un bienfait qui lui est accordé par Dieu. Il a son point de chute. On a commencé par dire que David exprime ses craintes à Dieu face à tous ceux qui lui en veulent, ses ennemis de plus en plus nombreux. Mais ici, au verset 7, je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Alors, il a peur ou il n'a pas peur? S'il a écrit ce psaume, c'est qu'il avait bien des craintes dans son cœur. Elles étaient bien là. C'est ça qui a fait qu'il a crié à Dieu. Mais là, on constate qu'il n'a plus peur. Certainement pas de manière définitive, absolue, il n'aura plus peur. Non, il y aura certainement encore des moments où il va crier à Dieu. Et même ce qu'on voit au verset 8 montre qu'il y a une certaine tension encore. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu !» Mais malgré cela, il y a les signes, les effets de la confiance en Dieu. Il a un point de chute, il a trouvé en Dieu une sérénité, une sécurité. Jusque-là, ça va, mais qu'est-ce que vous pensez de la suite? Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Vous imaginez dans le temps de prière tout à l'heure, quelqu'un qui reprend ses paroles, ou alors à jeudi soir, quelqu'un qui, vous imaginez, les regards un peu d'interrogation. Qu'est-ce qu'il fait? Le psaume 23, ça va, mais tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Il y a un problème avec un dentiste ou vengeance ou... Comment comprendre ce que David dit ici? Est-ce qu'il est trop dur? Est-ce qu'il est complètement pris par la vengeance? Trois remarques qu'on peut faire sur ces termes. La première remarque, c'est que notez là encore le parallèle entre le problème de départ, point sur la situation, et ce point-ci. C'est par leur bouche, c'est par leurs paroles qu'ils lui faisaient du mal. Et symboliquement, l'intervention de Dieu intervient ici contre leur bouche, contre leurs dents. C'est de là que sortent les paroles. La deuxième remarque, dans cette situation de coup d'État, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y aura un salut possible sans la défaite de ses ennemis? Vous imaginez des élections où on nomme deux présidents en même temps? C'est pas possible. Pour qu'un président soit nommé, il va falloir la défaite de l'autre. C'est pareil ici pour lui. Il va falloir la défaite de ses ennemis pour que sa situation soit restaurée. Mais une fois qu'on a dit cela, comment comprendre, comment faire avec cette prière? La troisième remarque, elle est liée à la suite, à la fin de ce psaume, au verset 9. David écrit « Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » La dernière parole, « Que ta bénédiction soit sur ton peuple », montre que ce n'est pas seulement son défi, son enjeu. C'est tout le peuple dont il a la charge qui doit bénéficier de ce secours, de ce salut. Et ces paroles mènent à la double portée de ce psaume. C'est à la fois un psaume qui nous concerne directement, mais aussi indirectement. On a essayé de décrire comment il nous concerne directement, comment on peut reprendre ces éléments du psaume pour nous-mêmes. Mais comment est-ce qu'il nous concerne indirectement? En lisant ce psaume, ce que David a expérimenté, on trouve de nombreux parallèles avec Jésus. Tous les deux ont connu un rejet de leur royauté. Tous deux ont dû sortir de Jérusalem. Un détail qui peut paraître insignifiant, mais qui est présent dans le texte de 2 Samuel, c'est que David va monter le mont des Oliviers en pleurant, la tête couverte, les pieds nus. Et nous, on se souvient, si on a lu le Nouveau Testament, comment Jésus est allé sur le mont des Oliviers, lui aussi pour pleurer avant sa mort. Lui aussi va monter le mont du Calvaire dans des conditions terribles où il doit porter sa croix. Pour tous les deux, il y a toute une foule, toujours plus nombreuse d'ailleurs, qui s'en prend à lui. On a parlé des paroles qui ont blessé David, mais au-delà des coups, des crachats que Jésus subit, c'est par les paroles qu'on lui fait mal. « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix !» Il en a sauvé d'autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. C'est confiant en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Et tous les deux, dans ces paroles qui leur sont assénées, ont fait confiance à Dieu. Oui, le salut appartient à l'Éternel. Et au-delà de tous les saluts qu'on peut expérimenter dans notre quotidien, quand on est saisi de crainte, quand on est agressé par des paroles, par des personnes qui nous en veulent, au-delà de tous ces saluts-là, c'est à ce moment-là que Jésus accomplit notre salut. S'il meurt à la croix, c'est pour que l'accusation, les accusations qui pèsent contre nous, contre un David, elles soient tout simplement annulées. Toutes les paroles qu'on pourrait prononcer contre nous sont annulées. S'il meurt à la croix, c'est pour que l'accusateur, on a lu tout à l'heure, le diable, qui, dans le texte d'Hébreu, c'est Jésus qui vit cette mort de sorte que lui, il soit vaincu. en tant qu'accusateur, il est rendu silencieux parce que Christ a payé pour nos fautes. On n'a plus à avoir peur. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu sais nos situations aujourd'hui et peut-être qu'il n'y a pas du tout cette peur, pas du tout ces craintes. Mais donne-nous dans ces jours-là de pouvoir venir à toi dans la prière et te dire avec confiance ce que nous expérimentons. Donne-nous aussi la grâce, Seigneur, d'expérimenter comme David que tu es notre bouclier, que tu es notre gloire, que tu relèves notre tête, que tu entends nos cris, nos prières. Donne-nous aussi, Seigneur, d'expérimenter miraculeusement, par ton intervention, cette paix, cette sérénité, cette peur qui disparaît. Comme Horatio Spafford, comme d'autres dans l'histoire, donne-nous, Seigneur, de vivre cette sécurité en toi. Et donne-nous, en Jésus en particulier, de savoir que malgré nos fautes, parce que nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas purs et innocents, donne-nous d'expérimenter cette paix, cette sécurité, parce que Christ nous a sauvés. En son nom, Amen.